Bonjour à tous. Oui, j'ai fait bonne route. Je devais être un peu distrait parce que j'ai oublié de tourner à droite pour monter vers l'église et puis j'ai dû aller bien plus loin. Parfois, on est un peu déconcentré. Mais finalement, je suis quand même arrivé à l'heure et je suis heureux d'être arrivé à l'heure. Ce matin, ma prédication se fera dans un genre, un style un peu particulier. Et vous comprendrez pourquoi. Donc, vous ne savez peut-être pas où j'habite. Alors, j'habite un petit village du Jura bernois qui s'appelle Le Fuet et qui a 280 habitants environ. Ça fait partie de la commune de Sécourt. Et puis, c'est lié à la vallée de Tavannes. Alors, la vallée de Tavannes, je ne vais pas vous faire une leçon de géographie, mais pour un peu vous situer, elle est environ à 20 km au nord de Bienne. Et cette vallée est très industrialisée, très développée, mais elle a une autre particularité, c'est que les évangéliques sont très présents, à tel point que selon certaines statistiques faites d'une façon neutre, il y a déjà très longtemps, j'avais entendu cela, c'est la vallée qui a la plus forte proportion de chrétiens évangéliques en Europe. Alors bon, je n'ai pas vérifié, mais et je ne connais pas toute l'Europe, bien sûr, mais ce que je peux constater, c'est qu'en effet, dans cette vallée, les chrétiens évangéliques sont très présents. Et pour vous donner quelques flashs, en quelque sorte, sur l'actualité de ces églises, eh bien, attention, je ne suis pas en train de dire que tout le monde est converti, et puis que tout le travail est fait, non. Je veux dire que les églises évangéliques de cette vallée, ces dernières années, continuent de connaître une progression extrêmement intéressante. Et vous savez, ici, vous avez encore des chaises qui sont libres. Il y a aussi des églises dans la vallée de Tavannes où ce matin, il y a des chaises qui sont inoccupées. Mais plusieurs églises de cette vallée ont dû, ces dernières années, construire de nouveaux bâtiments imposants, importants, pour faire face à l'affluence des gens, tout simplement. Je prends un ou deux exemples. Vous savez, je suis aussi correspondant de presse, journaliste, ce qui fait que je suis bien au courant quand même de ce qui se passe dans ma vallée. En plus, je suis un chrétien très engagé depuis longtemps dans cette vallée. Eh bien, prenons l'exemple. En mai 2015, le centre évangélique de Tavannes, qui était l'église évangélique de la Tanne, donc une église qui se trouvait sur la montagne dans une ferme aménagée, et puis elle s'est agrandie, ils ont construit et tout, puis à un moment donné, ils étaient des centaines de personnes au culte, et ils ne pouvaient plus agrandir en rapport avec les lois suisses qui permettaient plus de prendre sur du terrain agricole. Donc ils ont cherché une autre alternative, et puis ils ont pu acheter un terrain au bord de Tavannes. C'est un des villages de cette vallée. Eh bien, le 30 mai 2015, pour vous donner un exemple, près d'un millier de personnes se sont rendues sur le site de cette église. Vous allez dire, bon, lors d'une inauguration, pas de problème, Il y a toujours beaucoup de monde, il y a tous les curieux, il y a ceux qui veulent voir ce qui est nouveau. D'accord. Le dimanche matin, il y avait 800 personnes au culte. Vous allez dire, bah, c'est encore normal, ils venaient pour voir un peu ce qui se passait. D'accord. Mais en réalité, chaque dimanche, j'ai interviewé le pasteur il y a 2-3 semaines de cela, il me disait que dans la moyenne des cultes, ils sont 350 à 400 et que cette église a plus de 600 membres. Et elle avait 51 ans en 2015. Et elle a commencé dans une ferme, dans une cuisine, avec deux couples de paysans. Donc on peut dire qu'il y a une progression bien réelle dans cette église-là, qui est d'orientation pentecôtiste. Et puis, vous allez dire, bon, ben c'est normal, hein, les pentecôtistes dans le monde, ils progressent, c'est normal et tout ça. Cette réalité n'est pas vraiment vérifiable dans notre vallée de Tavannes. En 2017, au mois de mars, l'Armée du Salut à Tramelan, pour moi, c'est le début de cette vallée. Je dirais qu'elle commence, dans ma manière de parler, de Tramelan, d'un village qui s'appelle Tramelan, et qui se finit dans un autre village qui s'appelle Cour. Et entre ces deux villages, il y a 22 kilomètres. Et il y a au moins 15 églises évangéliques. Il doit y en avoir plus. Mais 15, ce sont celles qui ont des relations les unes avec les autres, qui font plein de choses ensemble. Alors qu'il y a des communautés évangéliques qui restent fermées sur elles-mêmes, je les respecte parfaitement, mais elles ne cherchent pas de relations avec les autres chrétiens évangéliques ou protestants. Eh bien, l'Armée du Salut a inauguré son nouveau bâtiment parce qu'il était trop petit. C'était à la base mon église quand j'étais jeune. Et cette église a passé, le poste de l'Armée du Salut à Tramelan a vécu des réveils à différentes étapes de sa croissance. J'ai vu cela, j'ai vécu cela dans la joie et dans la souffrance parfois, parce que lorsque j'avais entre 15 et 20 ans, eh bien, c'est une église qui était dans la pente totalement descendante. Et nous n'étions plus que quelques-uns. Nous avions un culte encore le dimanche soir, nous étions 10, 12. Et au point de vue des jeunes, nous étions 5 jeunes et extrêmement engagés pour l'Évangile. Et nous donnions presque tous les soirs de la semaine pour l'évangélisation. Que ce soit dans tous les cafés, les bistrots, de tous les endroits, chaque semaine où on allait chanter. Et puis, on était aussi dans tout l'été, deux soirs par semaine dans les rencontres en plein air. Et en plus de ça, il y avait des événements spéciaux. On était super engagés. Vous allez dire, bon, c'était il y a longtemps, mais je voudrais mettre l'accent ce matin sur une chose, c'est que la persévérance dans la prière finit par payer. Vous comprenez l'expression. Sur le moment, on se dit, il ne se passe pas grand-chose. Mais quand on vient vieux comme moi, on a du recul. Et maintenant, j'ai plus de 50 ans de recul sur ma vallée, donc je la connais très bien. J'ai suivi son évolution, bien sûr, j'ai vécu en Afrique de l'Ouest quelques années, mais tout de même, j'ai suivi l'évolution de cette vallée. Si je pense à l'église Mennonite de Tavannes, qui n'est pas une vieille église, parce que vous savez, les Mennonites, c'était des chrétiens persécutés, et ils n'avaient pas le droit, il y a quelques siècles, de descendre à moins de 1000 mètres d'altitude. Bon. Alors, il leur a fallu quelques siècles pour avoir le courage de descendre. Hein. La loi le permettait, mais ils descendaient pas. Mais Tavannes est en dessous de 1000 mètres. Eh bien, ils ont, il y a quelques années, ouvert une très belle église, luxueuse, moderne, qui permettait d'accueillir, je ne sais pas, 150, 200 personnes. Elle est devenue trop petite. Et eux non plus, ils ne savaient plus quoi faire, parce qu'ils ne pouvaient plus agrandir non plus. Alors ça, c'est l'humour de Dieu, si on connaît un peu les Mennonites qui sont contre l'armée, vous savez, c'était des civilistes, hein, les Mennonites, hein, c'était des sanitaires, si vous voulez. Eh bien, ils ont racheté l'arsenal de Tavannes. Hein, ça, c'est l'humour de Dieu. Hein. Alors maintenant, ils sont en train de le rénover pour que ça devienne assez grand et tout, et puis dans les mois qui viennent, je pense qu'ils pourront entrer là. L'Église pour Christ à Tramelan, qui est une division d'une Église qui était très fermée sur elle-même, mais ils se sont séparés non pas dans la guerre, ils se sont séparés bien. Et ceux qui sont restés, ceux qui ont voulu s'ouvrir aux autres chrétiens, parce que c'était un gros problème, eh bien, ils ont pu conserver le local. Mais il était trop petit, donc ils ont dû agrandir. Ils ont, il y a une année ou deux, inauguré leur nouveau bâtiment extrêmement intéressant. Et ils ne l'ont pas fait pour épater les gens, mais parce que c'était la réponse à un besoin. Donc, vous voyez que les églises, et je peux encore citer d'autres exemples, mais la mienne est très, très petite, hein. On est peut-être 20, entre 25 et 40 au culte. Donc, mon église, s'appelle l'église évangélique du Figuier, n'est pas une église qui est en train de se développer à fond. Même, on est en train de réfléchir pour la revoir, pour vivre une autre façon la vie d'église. Mais ça, c'est l'avenir. Donc, je connais très bien les évangéliques de ma région. Et je voudrais quand même vous lire quelque chose, parce que c'est fondamental dans la Bible. Alors, je lis dans Éphésiens 6, le verset 18 et les suivants, où il est dit « Demeurez, donc Éphésiens 6, dès le verset 18, « demeurez en communion avec l'Esprit, l'Esprit Saint, par une prière persévérante, car l'efficacité de ces armes dépend d'une intercession qui ne se relâche point. Restez donc alerte et vigilant, attentif aux occasions favorables, rempli de l'Esprit de Dieu, plaidant avec une insistance infatigable pour tout ce qu'il vous aura mis à cœur. Occupez vos veilles à crier à Dieu, à intercéder pour ses serviteurs. » Et puis, l'apôtre Paul dit quelque chose que je vais reprendre à mon compte ce matin. « Pensez aussi à moi et demandez à Dieu qu'il m'accorde la liberté et le courage d'annoncer l'Évangile avec hardiesse et à propos. Qu'en exposant les secrets de l'Évangile, je trouve les paroles justes et les mots qui portent. » Et ce matin, j'aimerais vous dire, non pas égoïstement, mais bibliquement, en tant que chrétien engagé dans l'annonce de l'Évangile, je vous demande de prier pour moi. Priez. Vous allez dire, moi, il est vieux, j'ai plus d'église, donc je ne suis plus pasteur d'une église. Mais ça ne veut pas dire que j'ai mis Dieu à la retraite ou que je l'ai rangé quelque part dans mes souvenirs. Au contraire, je n'ai pas prévu cela et je vais vous en parler. Vous êtes bien d'accord avec moi? Essayez de suivre mon raisonnement. Vous voulez témoigner de votre foi en Jésus-Christ ou annoncer l'Évangile à quelqu'un, un collègue de travail, un voisin, je ne sais qui, à la caissière du magasin. Et puis, elle sait que vous êtes d'une église évangélique. Ça, elle le sait. Mais elle ne sait pas ce que c'est des évangéliques. Elle pense que ce sont des sectes. Et beaucoup de gens le pensent. Comment cette personne va recevoir votre témoignage? Eh bien, comme ça. Je peux dire, bon, il me raconte des choses intéressantes, mais attention, il est d'une secte. Donc, à prendre avec précaution et plutôt un peu repousser. Dire, oui, c'est gentil, c'est bien, bravo, tout ça, mais les distances restent. Parce qu'il y a des préjugés. Parce qu'il y a l'idée que les gens qui ne sont pas d'une église officielle, il faut s'en méfier. Et je vois que même dans ma vallée très évangélique, beaucoup de personnes se méfient des évangéliques, ont des idées fausses à leur sujet. Elles sont un petit peu justes, il faut le dire quand même, parce qu'il y a des groupes évangéliques qui sont excessivement fermés sur eux-mêmes et qui donnent à leurs membres des interdictions, des obligations vestimentaires et autres, qui fait qu'on les reconnaît de loin dans la rue, et puis on se dit, si les évangéliques, c'est ça, j'ai pas envie d'en faire partie. Mais tous ne sont pas comme ça. Vous me suivez? Je suis pas en train de critiquer des gens, mais de vous décrire un paysage évangélique. Alors voilà une conviction qui m'est venue il y a quelques mois. C'est que, faut dire, j'en ai ras-le-bol, vous comprenez l'expression, hein, j'en ai ras-le-bol que tant de personnes ne comprennent pas le fond de nos convictions. quand on a rencontré Jésus-Christ, on reçoit de lui comme un cadeau, comme une grâce, la paix dans notre cœur. Est-ce que c'est vrai pour vous? Je le souhaite. C'est possible. C'est voulu par Dieu. Et si ce matin, vous n'êtes pas en paix avec Dieu, eh bien, rien ne nous empêche de sortir de ce lieu en étant en paix avec Dieu. Il suffit de le lui dire, de dire, Seigneur, je t'accepte dans ma vie, je viens à toi et donne-moi ce que tu veux me donner. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Donc, je crois et je constate que des milliers de personnes, dans ma vallée aussi, et ça doit être vrai aussi ici, n'ont pas la paix au fond de leur cœur. La cherchent partout, par tous les moyens, dépensent beaucoup d'argent pour des séminaires de tout genre, pour entrer dans des théories pas possibles, dans l'ésotérisme, dans l'occultisme. Ils cherchent la paix, ils cherchent, ils payent cher, ils passent leur temps, ils n'ont toujours pas la paix. Ou c'est une paix passagère. Alors que les personnes qui rencontrent Jésus-Christ reçoivent une paix durable. Une paix que personne, selon la parole de Dieu, ne peut leur enlever, parce qu'elle est donnée par Jésus-Christ. Et je voudrais que des milliers de personnes se rendent compte qu'elles peuvent trouver simplement, telles qu'elles sont, la paix avec Dieu. Ça ne veut pas dire que d'entrer dans une église évangélique, on trouve la paix avec Dieu. J'y crois pas. Parce que je rencontre des gens qui vont au culte depuis des années et qui sont en paix avec Dieu. Ils y vont pour toutes sortes de raisons, peut-être pour faire plaisir à leur femme, ou je ne sais pas, mais ils n'ont pas la paix avec Dieu. Donc, on ne parle pas de faire une pub pour les églises évangéliques. Mais j'en suis arrivé à ceci. Et c'est un projet qui est lancé, et pour ça, je vous demande vraiment de prier. J'ai le projet d'interviewer 100 chrétiens évangéliques de la vallée de Tavannes qui ont entre 16 ans et 116 ans, si j'en trouve, des hommes, des femmes, de tout âge, de toute condition, de toute orientation sportive, économique, politique, leur donner la parole sous forme d'interview, de mettre ça sous forme écrite et d'en faire un bouquin, sans témoignage évangélique. Évidemment, c'est un gros boulot, hein. Ça va me prendre 500-600 heures de boulot. Je me suis lancé dans ce travail. Je ne suis pas au bout. Je vais maintenant vous lire un ou deux de ces témoignages. Ce que je fais là, on ne devrait jamais le faire. Parce que quand on écrit un livre et qu'on se prépare, on ne devrait jamais avoir publication en dire des extraits. Mais comme je suis en même temps dans la direction des éditions qui vont, les éditions Ladios qui vont publier ce livre, je pense que ma directrice, elle ne va pas se fâcher, on pourra se comprendre. Alors, je vous lis, ça s'est fait récemment, hein, un ou deux de ces témoignages, c'est pas long, verrez, j'ai pas chronométré. Sandra Roulet-Romy. J'ai toujours eu de petites prières au fond de moi. Jeune, déjà le Seigneur a pris une grande part en moi. J'ai trouvé dans la foi des valeurs sur lesquelles je pouvais m'appuyer. J'ai fait une rencontre avec le Christ. Je devais avoir environ 18 ans lorsque mes convictions se sont intégrées dans ma vie. J'ai une formation d'employé de commerce. Et en 1993, je me suis marié avec Antoine Roulet. En 1998, après avoir, avec mon mari, suivi des études théologiques en France, nous sommes partis en Guinée-Conakry. Mon mari, ergothérapeute, au service d'une mission évangélique, exerçait sa profession dans une léproserie. En 2000, nous avons quitté brusquement la Guinée-Conakry et revenir en Suisse en famille. Un conflit meurtrier s'était déclaré, en particulier dans leur village. La même année, après la naissance de notre troisième enfant, je me suis lancé dans la course à pied et j'ai pris ensuite le départ de plusieurs marathons. En 2005, nous avons déménagé de Moutier à Malraix, 10 kilomètres, hein, pour nous établir dans notre nouvelle maison. Et en 2008, donc 3 ans plus tard, Antoine, mon mari, a perdu la vie dans un accident de snowkite. Il a fait, avec un cadeau d'anniversaire, il a fait quelque chose qu'il n'aurait pas dû faire tout seul, et il s'est tué. Je suis devenue veuve avec 3 enfants âgés de 8, 10 et 12 ans. Je ne savais plus où j'en étais. Je me suis accrochée, mais franchement, j'ai passé par des moments vraiment difficiles. Ce qui m'a donné de la force, c'est de croire que ma vie n'était pas destinée à être un échec. Je voulais aussi croire qu'il y avait une autre possibilité de vie heureuse. J'étais seule avec mes enfants. Je ne voulais pas qu'ils perdent aussi une mère absente. Je devais être là pour eux, reconstruire ma vie. Je ne suis pas entrée dans une révolte. Toutefois, il m'est arrivé de crier à l'injustice des « pourquoi moi ?». Depuis 2009, je suis directrice de la Croix-Rouge pour le Jura bernois. Au niveau artistique, j'ai toujours aimé chanter. J'aime beaucoup la chanson à texte, la musique lyrique. Je découvre aussi le jazz avec mon fils. J'apprécie aussi la musique classique. Je joue du piano. Je suis auteure, compositrice et interprète de chant. En 2010, j'ai réalisé mon premier CD, Garde l'espoir, dans lequel je chante. J'avais composé les paroles, la musique, et je me suis approché d'un producteur pour faire aboutir mon projet. Toutes les chansons ont été composées avant le décès d'Antoine, mon mari, à l'exception de la dernière intitulée « Je ne pensais pas », un extrait de cette chanson. « Je ne pensais pas que je pourrais continuer à vivre sans toi. Un jour, une semaine, plusieurs mois, le temps passe. Je ne t'oublie pas. Tant de choses me ramènent à toi. J'ai mal, je crie, je pleure à la fois. Maintenant, c'est dur, mais je te promets que je me relèverai dans le futur. » Il y a des étapes dans la vie. La prière, le recueillement jouent un rôle important dans ma vie. Eh bien, se remarier est un choix. Et le 26 septembre 2011, je suis devenue l'épouse de Sacha Romy. La même année, j'ai participé à l'émission de la télévision sud-romande « Mon village a du talent ». Ça vous dit peut-être encore quelque chose. En chantant « J'irai au bout de mes rêves » de Jean-Jacques Goldman. Et puis en 2014, j'ai réalisé mon deuxième CD intitulé « Renaissance ». Je suis membre du groupe sportif Malraix-Bévillard. C'est un des villages de la vallée. Et en juin 2016, j'ai remporté les 100 km de Bienne en 8h47. Pour ces premiers 100 km, c'est pas mal, hein, dans la catégorie des femmes. Et avoir des défis me stimule. Et depuis le 1er juin 2018, je suis député au Grand Conseil bernois, membre du Parti socialiste, parce que c'est important de soutenir les plus démunis, les gens qui sont socialement prétérités, vulnérables. Aucun parti n'est parfait. Il faut avancer avec nos différents points de vue politiques. Et pendant plusieurs années, j'étais membre de l'Église évangélique libre à reconvier. Depuis quelque temps, eh bien, je fréquente le centre évangélique à Tavannes, parce que je me sens bien là. C'est une église qui a plein de groupes permettant de faire des connaissances et dans lesquels on peut trouver sa place selon nos intérêts. Et pourquoi ne pas vous l'avouer? Ben, j'ai 47 ans. Ça, c'est son témoignage. Vous ne trouvez pas que c'est intéressant? Quand elle m'a raconté, c'est qu'un petit extrait de ce qu'elle m'a dit, mais je ne pouvais pas en mettre plus. J'aimerais vous dire, à la base, je crois, de ce qui se passe dans ma vallée, il y a la prière. La prière. La prière. La prière. En 1964, excusez-moi les jeunes, hein, j'étais jeune à ce moment-là, eh bien, nous étions quelques jeunes à vouloir un réveil spirituel dans notre vallée. Et nous étions devenus membres de plusieurs églises évangéliques, des évangéliques radicalisés, vous comprenez le mot ? C'est-à-dire tout pour l'Évangile. À côté de nos apprentissages, nos études, prier, annoncer l'Évangile. Et nous passions, sans avoir l'organisation d'une église, des nuits de samedi à dimanche à prier. On se retrouvait une sorte de cave de l'armée du salut, et puis là, on priait. Et puis on essayait d'être assez réveillé le dimanche matin pour aller dans nos cultes respectifs. On priait. Avec mes deux frères, un qui est plus âgé, un qui est plus jeune, le matin, à 6 heures, avant d'aller à nos apprentissages, on se retrouvait dans la chambre de Détroit, et pendant une demi-heure, on priait. On priait. On n'avait pas d'argent, mais on pouvait prier. On aurait aimé annoncer l'Évangile, jour et nuit dans tous les coins, mais ça coûte cher quand même. Mais on priait. On a annoncé l'Évangile. On a fait des choses assez inhabituelles, en louant des grandes salles, la plus grande salle de spectacle à Tavanne, elle avait 600 places, pour annoncer l'Évangile pendant 14 soirs. Et nous n'étions que des apprentis. Moi, j'avais 18 ans, mes deux aînés dans l'équipe d'organisation 21, un était l'évangéliste, moi j'étais responsable de toute l'information et de la présidence des rencontres, et un autre s'occupait de la prière. Et bien, au bout de quelques soirs, notre jeune prédicateur, amateur, après la réunion, on priait encore. Quelques-uns. Et il nous a dit à l'équipe d'organisation, je ne sais plus quoi dire demain soir, j'ai plus de prédication. On dit, mais attends mon gars, on n'est qu'au début de l'effort, tu n'as plus rien à dire, mais qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que tu proposes? Il m'a dit, ben, tu n'as qu'à prêcher toi. Ben, c'est comme ça que j'ai dû commencer. Un soir, 14 soirs c'est long, hein. On a bien eu d'Apozzo, deux, trois soirs. Mais les autres, c'était les nôtres, hein. Eh bien, un soir, la réunion se terminait. Excusez-moi si on parle de souvenirs, vous voyez comme c'est important quand même. Et le président de la soirée dit, écoutez, notre réunion est terminée. Mais on a prié, il y avait un local de prière sous l'estrade, hein, ça se voyait pas. On a prié, puis on a la conviction qu'on voudrait encore continuer un peu de prier. S'il y en a qui veulent rester avec nous, qui restent. C'était un samedi soir. Je ne veux pas exagérer, mais je pense qu'au moins 80 personnes sont restées. Mais nous, on était surpris. Et le président a dit, vous m'avez compris, la réunion est terminée, vous pouvez rentrer à la maison. C'est ceux qui veulent rester pour prier qui restent. Et les gens étaient là, moi je les voyais encore. On a bien compris. Ils voulaient prier. Et au fil des heures, l'effectif a diminué à cause de la fatigue et tout. Ils ont continué de prier. Chers amis, si actuellement dans ma vallée, on vit des choses si fortes, c'est parce qu'à la base, il y a des gens qui priaient et qui prient encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui. Il y a un nouveau besoin de prière dans ma vallée, c'est énorme. Et puis, je voulais juste ce qu'un pasteur des néo-baptistes a dit dans une rencontre des pasteurs. Il s'appelle Noël, ce pasteur. Il est du Bénin. Noël, il dit ceci. L'été dernier, je jeûnais, je priais le Seigneur pour que ma communauté puisse vivre un réveil après avoir lu un gros pavé sur la biographie de Dietrich Bonhoeffer. Il dit, son cœur brûlait, donc Noël dit, son cœur brûlait pour voir son Église vivre un réveil. Il a prêché sur ce thème en pensant que l'Assemblée allait s'enflammer. Cependant, le Seigneur lui mit sur le cœur, avant de réformer l'Église, réforme ta famille. Et Noël nous parle du contexte polygame de sa famille, avec une cinquantaine de frères et sœurs. Pour lui, il aurait été plus simple de réformer l'Église, sa famille. Dans sa famille, des jalousies, des querelles existaient en partie à cause de jalousies. Dans son village au Bénin, deux églises sont dirigées par des membres de sa famille et ils ne vivent pas l'unité. Certains frères ne s'adressaient plus la parole. Noël a demandé à rassembler tous les membres de sa famille au Bénin qui se réclament du Christ. Ils ont passé un week-end en famille et ils ont suivi une grande liberté. Après cela, ils ont vécu du monde réconciliation, même avec des membres des familles qui n'étaient pas présents. Et il conclut, lorsqu'on veut réformer nos communautés, nous devons commencer par réformer notre propre vie et notre propre famille. Ça, c'est dit, hein? C'est pas un vieux pasteur, il a, je pense, 35 ans. Dieu voudrait faire des choses extraordinaires dans toutes les vallées de Suisse. Mais est-ce que nous sommes prêts à écouter Dieu? Les 100 témoignages que je suis en train de recueillir bouleversent ma vie par la diversité des manières, des méthodes, des chemins par lesquels Dieu s'est adressé aux gens. Certains ont vécu des catastrophes dans leur vie, des drames pas possibles. Et puis ça les a amenés à Jésus-Christ. Et d'autres, une vie paisible, relaxe, et ils sont aussi venus à Jésus-Christ. Donc il n'est pas nécessaire de passer par des drames pour se tourner vers Jésus-Christ. C'est permis pour chacun. Je vous lis un deuxième passage. Je le prends dans Philippiens 4, le verset 6. Je lis dans cette version en parole vivante. N'entretenez aucun souci. En toute situation, exposez vos besoins, vos souhaits à Dieu, en les lui faisant connaître dans vos prières. Intercédez avec confiance et sérieux. Exposez vos requêtes avec précision, sans oublier d'exprimer aussi votre reconnaissance. Alors la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera votre cœur et vos pensées et les maintiendra dans la communion de Christ Jésus. Ça, c'est la parole de Dieu. C'est l'enseignement qui nous vient d'un apôtre expérimenté. Et il est toujours encore valable. Eh bien, j'observe dans ma vie de chrétien évangélique, que lorsqu'on prend les promesses, les conditions que Dieu nous pose pour qu'il puisse se révéler, lorsqu'on prend ça au sérieux, malgré toutes nos faiblesses, nous sommes loin d'être parfaits, il répond. Il répond même, selon ta parole, au-delà de nos attentes. Ce matin, mon projet n'est pas de faire de la pub pour les évangéliques. Mon livre ne sera pas ça. Il mettra aussi le doigt sur des points très faibles de nos églises, parce qu'il y en a. Je vais terminer ma prédication par un deuxième témoignage. Je rejoins ma place. Je suis né, il s'appelle Fritz Leuenberg. Je suis né il y a 76 ans à Montpellier, dans le Jura. Mes parents étaient suisse-allemands. Mon papa était protestant. Et ma maman catholique. J'ai eu une éducation religieuse catholique. Nous étions 4 garçons et 2 filles. Mes parents étaient fermiers. J'ai vécu à Montpellier jusqu'à l'âge de 36 ans. J'étais paysan à mon compte pendant 9 ans. Ben, ce n'était pas mon choix et j'ai eu des problèmes de santé. J'avais la tuberculose, des infections de sang. Être paysan n'était pas mon vœu, j'en ai souffert. Je me suis marié à l'âge de 26 ans avec Rosemarie, qui était catholique. J'ai quitté la ferme de ce village à 36 ans. Nous sommes allés à Hall, un autre village jurassien, où j'ai travaillé pendant un an dans l'entretien et la réparation de machines agricoles. Ensuite, je suis devenu représentant jusqu'à ma retraite pour la vente de chênes aux paysans en Suisse alémanique et en Suisse romande. Et nous sommes arrivés à Seycourt, c'est un de ces villages sur le bord de la vallée, à Seycourt en 1979. Nous avons eu deux enfants, Régine et Robert. Lors de mes tournées dans les fermes, trois paysans m'ont parlé de leur conviction et de leur foi en Dieu. Ils ouvraient parfois leur Bible. L'un d'entre eux m'a fait perdre beaucoup de temps. Et ces discussions, parce qu'ils faisaient des tournées de travail, ont duré pendant 4 ans. J'étais à la recherche de la vérité et cherchais des conseils auprès d'un jeune curé. Il n'est jamais venu répondre à mes questions pendant ces 4 ans. Et je voulais avancer dans ma foi. Et puis un paysan, en Ajoie, m'a invité pour participer à une cellule de prière qui se déroulait le mardi dans une église évangélique à Porrentruy. J'y suis allé 6 fois. Les gens priaient, chantaient, témoignaient de leurs expériences de guérison. La Bible était lue et commentée. Cela répondait à mes attentes. À mon retour à la maison, je racontais ce que j'avais entendu, mais ma femme, mes enfants restaient sceptiques. Un dimanche, j'ai décidé d'aller au culte avec ma femme et mes enfants. Ce culte a duré 1h30 et ils ont trouvé passionnant. Quelques mois plus tard, en famille, nous nous sommes convertis à Jésus-Christ. J'avais fait beaucoup de mauvaises choses dans ma vie. J'avais été infidèle à ma femme. J'avais brûlé des voitures, profité des assurances. Je me suis repenti face aux personnes trompées et à l'assurance que j'avais escroquée. Surpris par ma confession, le directeur d'une assurance m'a dit « Nous vous faisons cadeau de cette affaire ». En 1983, toute ma famille s'est fait baptiser. Et continuant mon travail de représentant, j'ai rencontré, maintenant il est chrétien, j'ai rencontré des paysans, des paysannes qui étaient malades. Certains, ils pleuraient. Alors, répondant à leur demande de prier pour eux, je l'ai fait avec conviction. Et à plusieurs reprises, ces personnes m'ont confié avoir été guéries. Notre fils Robert a perdu la vie dans un accident de voiture en 1989. Il avait 18 ans et demi. De 1990 à 2000, j'ai effectué 10 voyages en Roumanie pour apporter de l'aide. En 1987, un cancer s'est déclaré chez ma femme. Elle est décédée en 2000. Je me suis remarié en 2002 avec Astrid. 4 ans plus tard, Astrid est décédée, elle aussi, d'un cancer. Dans ces périodes de deuil, j'ai beaucoup souffert d'avoir été très mal conseillé et entouré par les responsables de 2 églises évangéliques situées hors de la vallée de Tavannes. Plus tard, j'ai pris l'initiative de les rencontrer et nous nous sommes réconciliés. Et le 21 février 2007, Erika est devenue ma 3e épouse. Et depuis 2001, je suis membre de l'Église évangélique libre à Recorvilliers. Je suis membre aussi de l'Association internationale des Gédéons. Je distribue gratuitement des Nouveaux Testaments dans les hôtels, les hôpitaux et de nombreux endroits. Et il y a 6 ans, j'ai fondé le groupe musical Les Fritz et Plus. Et en 2017, notre quatuor a répondu à plus de 60 invitations. Notre répertoire est tiré des chansons populaires de 1960 à 2000. Et depuis que je suis un retraité, et je trouve cette conclusion d'une force incroyable, depuis que je suis un retraité, il a 76 ans, de 6h à 8h chaque matin, je lis un texte biblique et son commentaire et je prie, c'est mon dialogue avec Dieu. Voilà le témoignage de Fritz Leuenberg. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Priez, Dieu répondra. Amen.